Camarade Kilo, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci. Et vous-même ?
Ben, très bien. Donc, je suis avec trois membres d'Arad Kilo. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Alors, moi, je suis Gérald, le percussionniste du groupe.
Moi, c'est Samuel, je joue de la basse électrique.
Et Fabien, guitare électrique.
Alors, quel est pour vous le point de départ d'Arad Kilo ? Quelle est votre rencontre avec la musique éthiopienne ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce mélange assez particulier de jazz, de musique traditionnelle, de musique latine, de groove ?
En fait, on a été tous bercés aux Éthiopiques de la fameuse collection Buda Music. Et ça fait tous quand même très longtemps maintenant qu'on baigne là-dedans. On a tous eu un moment de découverte particulier. Et c'est ce qu'on dit souvent, la découverte de la musique éthiopienne, c'est toujours un ailleurs qu'on n'a pas eu trop l'habitude d'écouter. Parce qu'on est très exposé à la musique d'Afrique de l'Ouest et à la musique d'Afrique de l'Est beaucoup moins. Donc voilà, c'est toujours un flash esthétique. En tout cas, ça a été notre cas à moi et je pense que je peux parler au nom du reste du groupe aussi.
Et effectivement, c'est, comme vous le disiez, c'est une musique qui est pleine de mélanges déjà. Hein, c'est avec l'arrivée des radios américaines dans les années 60 qu'ils ont fait une fusion entre leur musique traditionnelle, les Éthiopiens, et le rhythm and blues américain et le jazz. Et ça nous a semblé être un terreau dans lequel on pouvait avancer. C'était pas comme s'approprier une tradition, c'était vraiment déjà une musique de fusion qu'on pouvait faire avancer plus loin avec d'autres mélanges pour nous.
Et donc vous venez de sortir Visions of Selam. C'est votre troisième album, c'est ça ?
Tout à fait. Troisième album et cinquième opus.
Voilà, donc en effet, c'est un mélange et ça le devient davantage avec cet album puisque vous allez inviter différentes personnes à faire partie de votre groupe pour cet album. Et il s'agit de Mamani Keita, de Mike Ladd. Ce sont deux figures assez emblématiques, de musique complètement différente. Comment justement vous avez... composer avec eux, vu qu'ils font partie intégrale de votre groupe.
Alors en fait, Mike et Mamani, on avait déjà travaillé avec eux à des moments différents. On les avait invités sur scène déjà auparavant. Le début de l'histoire avec eux, c'était le festival Au fil des voix en janvier 2017, qui est un festival, comme son nom l'indique, autour des voix. Donc ils demandaient une création, et nous, ça faisait très longtemps que ça nous trottait dans la tête, cette rencontre entre notre musique, ce terreau éthio-jazz revisité et mélangé du hip-hop et une voix traditionnelle, et en l'occurrence une voix d'Afrique de l'Ouest, pour vraiment parfaire ce mélange entre Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et hip-hop. Et la création pour ce concert-là, c'est extrêmement bien passé, le public était debout en trois morceaux, et à la fin du concert le producteur du festival nous proposait de produire un album sur ce projet, donc voilà, 6 mois après on était en studio, donc c'était vraiment rapide.
Vous ne perdez pas de vue par contre la façon de composer que vous aviez auparavant, et peut-être que la musique éthiopienne en fait insinue en fait cette façon de composer. Est-ce que justement il y a une façon de composer assez particulière, est-ce que on a l'impression à l'écoute, hein, moi je suis pas musicienne, mais que il y a des codes un petit peu aussi dans la musique éthiopienne.
Alors, c'est vrai que la musique éthiopienne se construit sur des modes qui sont très spécifiques. Donc, ce sont des modes pentatoniques à 5 notes. Donc, il y en a 4 ou 5, je dirais, dont 2 ou 3 qui sont vraiment très, très particuliers et très, très significatifs de la musique éthiopienne. Et c'est vrai que nous, ça nous permet d'avoir une ossature qui garde un parfum éthiopien. Donc c'est ces modes-là, et par-dessus ça, on peut y mettre, comme il y a cette espèce de colonne vertébrale très forte, avec un parfum très fort, par-dessus ça, on peut mettre plein de parfums différents. On peut aller chercher dans le dub, on peut aller chercher dans le reggae, dans le hip-hop, etc. Et je pense que ça, Mike et Mamani, ils l'ont très bien compris. Ils pouvaient accrocher leurs branches à ce tronc mélodique et harmonique.
Parce qu'il y a d'intéressant et de passionnant avec cette musique, que moi j'ai découvert sur le tas, personnellement, c'est le fait, un peu comme en cuisine, c'est-à-dire d'avoir 5 ingrédients majeurs et de devoir faire des recettes différentes tout le temps avec 5 mêmes ingrédients. Et ça, c'est absolument génial comme travail, en fait. Et la musique éthiopienne, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a cette musique en filigrane, en fait, de notre musique globalement. Et ensuite, on va piocher dans d'autres choses pour ajouter un peu de sel, un peu de poivre, pour essayer de donner une saveur différente. Et donc, comme disait Samuel, on va aller en Jamaïque, on va aller dans les Caraïbes, on va aller dans le hip-hop américain, on va aller tout ça. Mais effectivement, et tout le temps, on retrouve ces 5 mêmes ingrédients, ces pentatoniques éthiopiennes qui sont là et qui font, en fait, le fil conducteur de la musique, en fait.
Est-ce que c'est justement ces 5 ingrédients qui donnent à la fois cette dissonance, cette discordance parfois, et puis également cette mélancolie assez joyeuse au final.
Complètement. C'est complètement ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que on a toujours, on va dire une oreille un peu lambda, elle a toujours l'impression d'entendre quelque chose d'un peu redondant, sans force, alors que d'un morceau à un autre, d'un titre à un autre, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est assez bluffant dans cette musique, en fait. C'est-à-dire que c'est ce sentiment de répétition sans en être une, au final. Et c'est vraiment ça qui est en même temps qui est un pari, en termes de composition, et en même temps, quand il les réussit, ça crée quelque chose d'unique, en fait, tout simplement.
C'est vrai que le mode qu'on utilise le plus souvent, c'est un mode qui s'appelle Tezeta, et en Amérique, en éthiopien, ça veut dire mélancolie. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment-là qui traverse un petit peu le morceau.
Est-ce que vous pensez qu'Arat Kilo peut aller puiser justement dans d'autres musiques africaines, peut-être assez méconnues aussi aujourd'hui, je ne sais pas, la musique du Cap-Vert par exemple, ou celle du Ghana? Est-ce que vous avez d'autres envies en termes de composition, ou est-ce que vous imposez justement ces cinq éléments?
Dans le dernier album, il y a quand même plusieurs morceaux qui sont très inspirés du Congo. Donc déjà, on est allé chercher un petit peu en Afrique centrale. Après, tant qu'on garde ce canevas de gamme, d'accords, de mélodiques, finalement, on peut aller un peu partout. La seule contrainte, finalement, c'est que ça fonctionne. En fait, c'est que ça fonctionne avec nos chanteurs, que ça fonctionne entre nous. On est assez démocratique dans notre manière d'écrire et d'arranger. Enfin, tout le monde amène des compositions et on arrange très collectivement. Donc finalement, si ça va à tout le monde et qu'on trouve que ça reste dans notre identité, on peut aller se balader un peu partout en Afrique.
J'imagine que ça va aller aussi au gré des rencontres. Ce serait génial effectivement d'explorer d'autres musiques, mais ce serait bien maintenant de le faire avec des gens qui détiennent un peu les clés et qui puissent nous exposer leur univers et qu'on puisse se fondre dedans.
Et Mamani Keita,
c'est la meilleure du monde.
C'est la maman.
Plus d'une au fil de votre carrière, notamment avec Mulatu Astatke. Comment s'est passée cette rencontre? Ça doit être assez impressionnant de de rencontrer la personne la plus emblématique justement de la musique éthiopienne.
C'était vraiment très impressionnant, d'autant qu'on existait à peine depuis un an quand ça s'est passé. C'était grâce à Laurence Alloir de Musique du Monde qui nous avait invités à une émission commune avec Moulatou, et donc on s'est retrouvés à jouer deux de ses grands standards sans l'ombre d'une répétition, directement en se retrouvant en studio. Donc c'était vraiment un moment absolument, absolument mémorable. Et on s'était retrouvés l'année suivante aussi pour une création, pour 2-3 jours de résidence et un concert avec lui. Et c'est vraiment quelqu'un de super, qui a été très paternel avec nous, qui est arrivé avec des partitions, avec les gammes, les partitions d'une de ses dernières compositions, qui a été super. Et forcément c'était un moment important pour le groupe, ce moment-là.
Alors, est-ce que vous êtes déjà allé en Éthiopie? Vous avez, je le sais, hein, vous aviez enregistré 12 Days in Addis en 2013 là-bas. Est-ce que vous y êtes retourné depuis? Quel a été votre sentiment en fait sur le pays quand vous y êtes allé?
Alors, il y a plusieurs questions. Notre sentiment sur le pays, moi j'y étais allé précédemment, et ce qui m'a vraiment sauté à la figure, c'est que c'est un pays, en tout cas une ville, parce qu'on a surtout vu Addis Abeba, qui est vraiment une espèce de ville-monde immense, et ce qui m'a sauté à la figure, c'est que ça change à la vitesse de la lumière, quoi. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on ne reconnaît pas la ville, tellement ça construit, tellement ça change, les quartiers changent d'identité, etc. Ça a fait énormément de bien au groupe, à l'époque où on y est allé, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a été visiter les racines de la musique qu'on joue, et ça nous a fait vraiment du bien, mais c'était avec une équipe précédente, c'était un groupe qui n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, en termes de personnel, de musicien. Donc moi ça me semble vraiment très très important maintenant qu'on y retourne avec la nouvelle équipe, et on a des touches, peut-être que ça va arriver dans pas trop longtemps, sur le mois de juin, ouais. Inch'Allah.
Tu faisais partie des personnes qui y sont allées justement?
Non, pas du tout, et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que moi la musique éthiopienne, j'avais entendu vaguement parler des Éthiopiques, justement de ces fameuses listes qui retraçaient l'histoire de cette musique-là, enfin celle des années 60. Et c'était une rencontre totalement inattendue autour d'une jam session avec un des musiciens du groupe, et qui m'a dit effectivement qu'il faisait de la musique éthiopienne. Je lui ai dit, mais la musique éthiopienne c'est quoi? Alors il me dit, oui mais si tu connais pas les Éthiopiques? Oui je connais, j'ai entendu parler. Ben viens, j'ai un groupe qui s'appelle Arat Kilo, passe nous voir, et puis viens jouer avec nous. Et puis ils m'ont invité sur scène, et là j'ai découvert cette musique, et effectivement j'étais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je connaissais la musique, surtout la musique d'Afrique de l'Ouest, les grandes figures qu'on connaît un peu tous, mais notamment même Mamani, que je connaissais déjà de nom aussi. Mais la musique éthiopienne, c'était vraiment quelque chose de complètement inattendu, complètement secret. Enfin, je ne connaissais rien là-dessus. Et aujourd'hui, je m'aperçois que depuis que je suis dans le groupe, que c'est une musique qui commence à se populariser, que beaucoup de groupes de musique éthiopienne commencent à naître, et pas forcément en France, parce qu'il y en a d'autres en France, il y en a d'autres aussi ailleurs. Et voilà, que dire, c'est que maintenant, j'espère qu'elle arrivera à acquérir un peu c'est la même notoriété que d'autres musiques, de musique du monde, que peuvent avoir les musiques maliennes, congolaises, ou l'Ouest africain.
Est-ce que vous venez d'une formation jazz conservatoire? Et ça pourrait expliquer en effet votre engouement pour cette musique?
C'est divers. La section vent, en général, les vents forcément apprennent avec des partitions. Pour ce qui est du basse-guitare, c'est plutôt, on apprend plutôt en jouant du punk. Si notre batteur est a fait le CNSM, donc lui il est issu de cette partie là et Gérald il est plutôt issu du milieu professionnel, voilà, ça fait longtemps qu'il tourne, mais non, on n'a pas forcément un cursus de conservatoire à part la section vent. Donc je pense que l'engouement il vient plutôt au contraire de la richesse rythmique de cette musique et de toutes les influences qu'on a déjà citées qui sont là-dedans, la musique latine, funk, groove, toutes ces choses-là, c'est plutôt là où la section rythmique s'y retrouve, je pense, à l'origine.
Puis au final, on est tous issus d'une tradition orale, au fait. Donc on a tous un peu appris, en tout cas pour la section rythmique, d'oreille, en écoutant nos groupes préférés, en jouant par-dessus leur musique.
Je pense que c'est un truc aussi assez typiquement parisien, enfin français et parisien, quoi. C'est-à-dire que quand on grandit à Paris, dans les années 90 dans notre cas, on est exposé à plein de musiques, quoi. On a été forcément exposé au hip-hop, je pense à Radio Nova, quoi, qui passait plein de musiques du monde, qui a toujours essayé... Enfin, il y a quand même une tradition de mélange à Paris, de rencontres entre les peuples, et je trouve qu'en ce sens, on est vraiment particulier de cet endroit-là, quoi, représentatif de cet endroit-là, en tout cas.
D'ailleurs, les falsettos, les Éthiopiques, il a commencé quand à peu près à rapporter ça en France ?
Milieu des années 80, je crois. Hein.
Oui, je crois que c'est ce que j'allais dire. Ouais. Après, il y avait quand même quelques disques qui avaient passé les frontières éthiopiennes, mais c'est vraiment au moment de la collection que ça a repris un second souffle. Mais oui, c'était début 80, je crois, effectivement.
Et alors, lors d'un entretien qu'on a eu avec lui, en fait, il nous parlait d'une musique de révolte. Pour lui, la musique éthiopienne, c'est une musique de révolte, paradoxalement. Mm-hmm. Même si la plupart des groupes étaient des groupes, des orchestres nationaux, il y avait ce double sens qui est très apparemment utilisé en Amérique, mm-hmm. et qui permettait justement à ces orchestres de défier un petit peu le pouvoir, au final, même en étant à son service.
Oui, c'est parce qu'en fait, c'est forcément quelque chose... On passe complètement à côté de cette partie-là, puisqu'on n'a pas de chanteur éthiopien. Mais les Éthiopiens, effectivement, utilisent énormément de métaphores. Et c'était une manière, effectivement, de pouvoir critiquer le pouvoir sans se faire taper dessus. Donc je pense que dans toutes les civilisations, ce genre de choses s'est passé. Hein, ça s'est passé en France aussi. Après, peut-être qu'il y avait aussi une petite rébellion de ne pas jouer de la musique traditionnelle et d'être vraiment dans une musique avec un gros côté américain, ou si on peut dire occidental en tout cas. Donc je pense que c'est cette partie-là. Mais en tout cas, sur la partie texte, nous, on n'est pas les meilleurs juges sur cette partie-là.
Mais vous avez fait appel à Mike Ladd, ou vous avez rencontré Mike Ladd, qui est pour lui, en fait, en effet, un révolutionnaire, quelque part. Ses paroles, elles sont antiterroristes, elles sont souvent très engagées.
Oui, alors ça rejoint pas mal l'engagement du groupe en général. De toute façon, la thématique générale de Vision of Selam a été beaucoup sur surtout à le moment où a été composé l'album. C'est quand même un problème qui nous touche tous collectivement et individuellement. Donc c'était une thématique qui est vraiment revenue, puisque Mamani était une ancienne sans-papier. Mike, il est moitié afro-américain, un quart Cherokee. Enfin, forcément, les questions d'identité, de colonisation et toutes ces choses-là sont vraiment des thématiques qui nous touchent. On n'écrit pas de paroles, mais par contre, on donnait à nos chanteurs les thématiques sur lesquelles on avait pu composer, et on échangeait, et eux échangeaient entre eux, pour qu'on ait quand même un contenu cohérent en termes de texte sur l'album.
Alors ce soir, vous jouez dans le cadre d'un festival qui s'appelle Enracinement, Déracinement, Déplacement. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez rencontré Thierry Valvisaner du Théâtre Charbon, qui mène ce projet depuis déjà 3 ans?
Alors, on l'a rencontré en arrivant, mais c'était c'est pas nous qui nous occupons de booker les dates, donc c'était notre tourneur qui s'occupait de ça. Donc on l'a découvert aujourd'hui. J'avais suivi un petit peu la programmation du festival, et effectivement, nous, on s'inscrit très bien dans ce genre de problématiques et de questionnements, en tout cas.
Et puis c'est une pièce sur le coureur éthiopien Abebe Bikala. Mmh. Est-ce que ça vous parle, cette histoire?
Oui, enfin, je connais l'histoire, et je connaissais la fameuse phrase, mais après j'en connais pas vraiment beaucoup plus. Je découvrirai tout à l'heure.
Merci.
Vous avez peut-être des choses à nous raconter, d'autres choses?
Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Si, on a un très gros concert le 16 février au Trianon, qui sera un concert un peu spécial, parce qu'on sortira de résidence son, lumière, et avec des petites surprises. Donc ça sera c'est vraiment un concert, ça vaut le coup de faire le déplacement, parce que ce sera vraiment un concert spécial. Donc 16 février, Trianon. Et puis après, il y a plein de dates en option pour l'été. Normalement, on ne va pas beaucoup tourner en 2019, donc on a hâte de continuer à défendre cet album sur scène.
Puis il y en aura un autre après, je suppose.
Ouais, mais non, mais
justement,
on travaille, on compose.
Et puis vous allez devoir vous rendre en Éthiopie, peut-être.
Voilà, donc il y a... faut pas en parler.
Non, voilà, je vous laisse tranquille. Bon, merci beaucoup.
Merci à toi.
Yeah, little B-Star. Shout out to the Addis Abbas, y'all. Good plan. But this is for her. I really didn't mean it, ma.
I was seated, my hydroponic drop. That's what popping on the ceiling top. Go ahead and tell a lot, it wasn't Demerol. The cougars, they be clawing like the end of millennia. I'm fit to get my seat to those who've been feeling me. If someone needs a rest, well, I'm not the one to be beneath, unless it's the petticoat. I'm here just to raise a toast to all of them on fleek. It don't matter, they young or old.
Shimon Moon.